Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, Olivier Dartigolle, Jérôme Béglé, Gilles-William Golnadel, Philippe Bilger, Yoann Ouzaï et Olivier Benkimoun sont avec nous ce soir. Et Olivier, pour parler de la mort de Gilles Taïeb, on en a parlé ce matin et il y a beaucoup d'émotions, pour tout vous dire, dans cette maison de CNews. Le CRIF a annoncé la mort de son vice-président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Gilles Taïeb est décédé à l'âge de 66 ans, vous l'avez vu régulièrement et notamment sur votre plateau, Olivier. Il y a eu un tweet ce matin extrêmement émouvant de son épouse avec qui il avait traversé la vie, qui lui a rendu hommage avec des mots pleins d'émotions. On est venu nous arracher l'un à l'autre alors que nous avions construit une vie d'inséparables. Le bonheur d'être toujours ensemble à chaque instant de notre vie, main dans la main, avec nos merveilleux enfants. On n'a jamais imaginé l'impossible. Il y a une séquence que je vous propose de voir avec le président Macron. C'était juste avant la manifestation à laquelle le président Macron n'était pas présent, mais il avait voulu manifester sa sympathie pour les Juifs de France.
Bonjour à tous, voilà, je suis avec mon ami Gilles. Je ne peux pas être avec vous dimanche, mais j'y serai en pensée. Et merci d'être mobilisés. On ne lâche rien. Et jusqu'au bout, on se battra pour qu'ils soient tous libérés. Bon courage et avec vous.
C'était à l'occasion du
100 jours.
Des 100 jours.
C'était pour célébrer les 100 jours de captivité des otages. Et c'est vrai que Gilles avait une relation très particulière avec Emmanuel Macron. Il, je ne pense pas traduire un secret. Il s'écrivait énormément. Il disait beaucoup de choses. Il disait toujours ce qu'il pensait. Et sachant qu'il organisait cet événement et notamment une course pour les otages, Emmanuel Macron avait dit bah, écoute, on va faire une petite vidéo. Viens à l'Élysée. Et Gilles avait dit comme ça, je rentre par la porte. Oui, viens. Ils avaient improvisé ça en quelques minutes. Et puis Gilles était reparti. Et vraiment, il avait une relation très particulière avec.
Et puis, il y a une autre image que je voulais vous proposer. C'est cet après-midi dans Paris, la levée du corps, puisqu'il part pour Israël.
Il sera enterré, effectivement.
Où il sera
Israël, demain ou après-demain.
Regardez ces images. On a appris sa mort hier soir, vous l'avez appris hier soir, et après l'émission, vous êtes allé auprès de sa famille.
Ouais, en sortant de plateau, on savait Gilles très, très malade. Moi, quand je l'ai rencontré, c'était après le 7 octobre. Hein. Il était déjà malade, c'est quelque chose qu'il n'a pas claironné. Je ne savais pas quand je l'ai rencontré. Puis un jour, j'ai appris sa maladie. Et effectivement, sa dernière apparition, je pense, sur l'antenne, c'était autour du 12 février ou du 14 février chez Laurence Ferrari. Il était très amaigri.
J'ai l'impression qu'il est venu un soir ici, hein. Il y a quelques jours. Moi, je l'ai croisé.
Le souvenir est comme ça, mais dans nos archives, c'était peut-être chez Julien le 14, ouais. quelque chose comme ça. Mais ensuite, son état de santé a décliné. Puis ces dernières heures, il avait été hospitalisé. On nous avait prévenu dès lundi que la maladie allait sans doute l'emporter, effectivement, en sortant du plateau. Hier soir, on a appris qu'il était parti. Et vous savez, la tradition juive, c'est de se réunir, de faire la veillée. Donc, on enlève le corps rapidement de l'hôpital ou de la clinique et puis on veille le mort.
Et Gilles William, aujourd'hui, vous lui avez rendu hommage sur Twitter.
Ah oui, c'est un ami de 40 ans. C'est un frère d'armes. Il était plus spécialement chargé de la protection des Juifs de France. Je peux vous dire que plusieurs fois, il m'a alerté. J'ai du mal à en parler. Voilà, c'est tout.
Et on pense évidemment ce soir à Karen, son épouse, à ses enfants. Et on pense évidemment à toute sa famille. c'est toujours difficile, selon la formule, dans ces cas-là, d'enchaîner avec cette actualité dont nous allons parler à l'instant et dont nous parlons tous les soirs. Vous serez là à 21h avec nous, Olivier. Éric Zemmour était présent à Bruxelles aujourd'hui et les autorités bruxelloises ont ordonné l'arrêt d'une réunion de représentants de la droite dite nationaliste dont Éric Zemmour et le Britannique Nigel Farage organisaient à quelques semaines des élections européennes. Et nous allons voir effectivement cet échange qu'on saisit mal d'ailleurs, Johan Usaï, c'est pour ça que je vous ai demandé d'être avec nous aujourd'hui. Éric Zemmour devait monter à la tribune. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban était annoncé comme tête d'affiche. Et Éric Zemmour n'a pas pu entrer. Alors, on ne l'entendra pas, Éric Zemmour, je le dis tout de suite, c'est uniquement pour des raisons de temps de parole. Et je sais que ces temps de parole sont interprétés parfois par le public. Vous ne voulez pas faire entendre tel homme politique, on ne l'entend pas, etc. Nous sommes soumis à un temps de parole sur tous les candidats et sur tous les hommes politiques qui est contraignant. Donc n'y voyez pas une manœuvre de ne pas faire entendre Éric Zemmour, c'est le temps de parole. En revanche, je voudrais que vous nous expliquiez ce qui s'est passé aujourd'hui, Johan.
D'abord, c'est une conférence qui devait réunir à peu près 40 dirigeants de la droite nationale qui a été annulée deux fois parce que deux bourgmestres, les maires en Belgique, avaient décidé de l'annuler. Donc au dernier moment, cette conférence a été organisée vraiment au tout dernier moment dans un lieu, troisième lieu qui a finalement été trouvé. La conférence débute le matin et puis à midi, le bourgmestre de la ville décide de l'annuler alors qu'elle avait déjà commencé. Donc à midi, les policiers arrivent devant la salle et bloquent l'entrée. C'est pour ça qu'on voit Éric Zemmour qui est bloqué devant l'entrée parce que lui n'est arrivé que l'après-midi, alors même que la conférence avait déjà commencé. Donc les policiers sont déjà là, ils bloquent l'entrée et donc la conférence est annulée. Éric Zemmour ne peut pas rentrer dans la salle. Le maire, le bourgmestre de la ville explique que c'est pour des raisons de sécurité, de troubles à l'ordre public. Et puis en fait, il reconnaîtra qu'il s'agit en fait de l'extrême droite et que l'extrême droite n'est selon lui pas la bienvenue. C'est la raison pour laquelle il a décidé de l'annuler. Vous le voyez, il le dit d'ailleurs sur Twitter, il ne s'en cache même pas. L'extrême droite n'est pas la bienvenue. C'est pour une raison idéologique qu'il a pris la décision donc d'annuler cette conférence.
Alors, on n'a pas entendu Éric Zemmour lorsqu'il devait entrer dans cette salle, mais nous pouvons néanmoins l'entendre commenter son interdiction.
La Belgique était jadis un pays libre où on accueillait Victor Hugo en exil. Je vois qu'aujourd'hui c'est un pays qui est entre la charia et la dictature. C'est un triste destin pour ce beau pays. Voilà. En tout cas, je maintiens que moi je suis là pour défendre l'Europe, la liberté de l'Europe et l'identité de l'Europe.
Je crois, Johan, qu'il y a une réaction du Premier ministre belge.
Le Premier ministre a dit que cette interdiction était inacceptable. Donc, selon lui, il aurait évidemment fallu maintenir cette conférence et ne pas l'empêcher.
Et puis, il y a une réaction également de Mme Bergeau-Blaclair que je voulais vous lire. Un homme politique français est interdit de donner une conférence à Bruxelles lors d'un événement organisé par les conservateurs européens. Au motif de sa couleur politique, l'interdiction est signifiée par le maire Emir Kir, connu en Belgique pour ses liens avec les islamo-nationalistes turcs, les loups gris, qui peut se réjouir de la censure exercée à discrétion, là où se dessinent les politiques qui nous gouvernent à Bruxelles. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Éric Zemmour, cette censure est inacceptable, très inquiétante. Et doit être condamné. Pas de réaction.
Philippe Bidger. J'aime beaucoup la réaction du Premier ministre belge. Oui. Au moins, il ne tourne pas autour du pot, il est clair et net.
Oui, enfin bon. La réalité, c'est que la Belgique, c'est la France Empire. Oui. Et c'est la France, dans deux ans, dans trois ans, si rien n'est fait. Les islamistes ont pignon sur rue. Rendez-vous compte que la justice belge a rendu sa liberté à un terroriste iranien condamné pour pouvoir récupérer un otage pris par les Iraniens. Le terroriste condamné avait tenté de mettre une bombe à Villepinte en France. Et j'ai pas entendu beaucoup, ni les politiciens français, ni les politiciens belges récriminés, pas même la presse. On en est là. Je veux dire, c'est pas le mot scandale, c'est un euphémisme quand on voit quelque chose comme ça. C'est tout.
Au moins, les choses sont claires, parce que le mauvais argument selon lequel, pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas autoriser une manifestation, en tout cas une réunion qui avait commencé. Là, c'était un scandale. Je reprends le... Et puis, au nom de la sécurité ou de l'insécurité, que de crimes ou que de privation de liberté, commettons. Au moins là, les autorités politiques, le bourgmestre dit « j'ai pas envie d'extrême droite ».
Ah oui,
non, mais c'est scandaleux, mais au moins c'est clair. Il ne se cache pas derrière son petit doigt.
Ce qui se passe en Belgique, et notamment à Bruxelles, tous ceux qui sont à Bruxelles, qui vivent à Bruxelles ou qui reviennent de Bruxelles, sont frappés, évidemment, par l'influence qui peut exister dans cette ville, bien sûr.
Il faudrait donc établir un principe, puisque là, il n'y a pas trouble, menace de trouble à l'ordre public. C'est simplement une décision idéologique d'un responsable local. Oui. Il faudrait donc établir le principe qu'à partir du moment où une organisation politique n'est pas interdite, que ses représentants, quels qu'ils soient, sur l'ensemble du prisme politique, puissent partout pouvoir.
Ça tombe bien, c'est le principe.
Puissent partout pouvoir.
Il y avait le Premier ministre. Il y avait Victor Orban. Victor Orban n'était pas là.
Non, il devait venir demain mercredi.
Donc finalement, il ne viendra pas.
Il ne viendra pas.
D'accord.
Ça, c'est important. Le même traitement au chef de gouvernement d'un pays de l'Union européenne.
Ah oui.
Incroyable.
Bon, en tout cas, il y a une réaction du Premier ministre belge qui est sans ambiguïté.
Mais platonique.
Autre sujet, puisqu'on en avait parlé hier, c'est Mathias Wargon qui avait critiqué Paris Match hier, le médecin urgentiste, chef de service des urgences, qui avait mis en doute, de manière quand même assez étrange, l'excellente enquête de Anne Jouan.
Absolument.
Hier, qui... En tout cas, belle opération de Paris Match, le CNews de la presse, qui d'un cas douteux est en train de faire de tous les médecins des Weinstein. C'est évidemment pas ce qu'a fait Anne Jouan.
Tout est faux. Hein. Chaque mot est faux.
Mais bon, Monsieur Wargon a manifestement un problème avec la vérité, puisque vous dirigez Paris Match, je le rappelle, Jérôme Béglé, et vous nous avez rappelé que Monsieur Wargon apparaît dans Paris Match avec son épouse. C'était le 6 août
2020.
Voilà. Et on va voir. La ministre est dure.
Il a difficulté de poser dans Match avec exactement. Sa femme qui était à les portes ministre sur une moto.
Oui.
Visiblement, les pudeurs de jeunes filles qu'il trouve en 2024 n'étaient pas les mêmes en 2020. Je rappelle que Paris Match est le même en 2024 qu'en 2020.
Oui, c'est important de le dire également.
Le directeur a peut-être changé. Je suis arrivé il y a un peu moins d'un an. Mais je ne crois pas qu'il y ait un changement de ligne éditoriale au sein de ce journal. Il n'y a pas eu de changement actionnarial entre août 2020, puisque. Globalement, l'actionnariat était comme à peu près ce qu'il est aujourd'hui. Et nous avions, et à l'époque, Paris Match, comme aujourd'hui, propose aux hommes, femmes, politiques, ministres de s'exprimer avec leurs conjoints s'ils le veulent ou leurs enfants s'ils le veulent dans Match. Ouais. Et ce papier était tout à fait gentil à l'égard de monsieur et madame Wargon.
Je suis d'accord avec vous. Mais ce que je trouve vraiment tout à fait étonnant chez Mathias Wargon, et son compte Twitter d'ailleurs est tout à fait étonnant parce que c'est un homme qui tweet beaucoup. Je rappelle que, bon, en tout cas, il faudrait dire que ça ne s'écrit pas comme ça, mais ça, ce n'est pas grave. Belle opération de Paris Match, le CNews de la presse, qui d'un cas douteux, c'est ça que je retiens, qui d'un cas douteux est en train de faire de tous les médecins des Weinstein en puissance.
Je voudrais juste rappeler, monsieur Wargon, dans l'enquête que nous avons publiée la semaine dernière, il y avait 4 cas dont nous donnions des noms. Alors, pas seulement celui de monsieur Peloux. Pas plus tard qu'hier soir, sur une chaîne d'information concurrente, Madame Bachelot, ministre de la Santé à l'époque, est revenue en détail.
N'a pas eu de mots assez durs sur Patrick Peloux.
Sur Patrick Peloux. Et je ne sache pas que Madame Bachelot soit sur CNews ou chroniqueuse dans Paris Match.
Je partage votre avis parce qu'elle est précisément sur BFM.
Et elle l'a clairement dit. Elle est revenue sur la chronologie et sur le dossier qu'elle avait eu à instruire à ce moment-là. C'était il y a 16 ans, je crois. Vous voyez que les choses étaient assez claires.
Même dans l'audiovisuel public, ils en ont parlé.
Et même dans l'audiovisuel public, ils en ont parlé. Par ailleurs,
avec une qualification de
ce qui lui est reproché
différente. Ouais. Avec une qualification de ce qui lui est reproché.
J'ai une certaine fierté qu'Anne Jouan ait fait cette enquête. Je rappelle qu'Anne Jouan, notamment, était à l'origine du Mediator. Et que les mêmes médecins n'avaient pas de mots assez gentils pour dire qu'elle avait levé un lièvre important. Et enfin, le gouvernement, par la voix de M.
D'ailleurs, c'est ce que disait M. Wargon. Anne Jouan était une bonne journaliste quand elle a sorti le Mediator.
Ça l'arrange.
Voilà.
Et enfin, juste pour finir, Frédéric Valletoux,
désormais, son truc, c'est le buzz. Vous vous rendez compte combien il remet en cause l'enquête d'Anne Jouan, les propos forcément de Mme Bachelot. Donc on est vraiment dans quelqu'un qui est a priori dans une négation de la réalité, qui ne veut pas... Il parle de buzz.
Il remet effectivement aussi en cause les décisions. En tout cas, je rappelle que M. Valletoux, son ministre de tutelle, va réunir d'ici la fin du mois un certain nombre de représentants et de hauts fonctionnaires de l'hôpital public pour voir comment on peut mieux faire et voir quels ont été les débordements. Comme dirait le diable boiteux, tout ce qui est excessif est insignifiant.
Est-ce que je,
bon,
je
dernier
peux
mot.
Poser une question ?
Dernier mot, rapidement.
Quand on lit l'excellent article, on a l'impression tout de même que Patrick Peloux est gravement impliqué. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir respecté, enfin, Anne Jouan, fait un très bon travail, l'équilibre au fond.
Nous lui avons donné il a pu répliquer d'ailleurs dans le papier, nous faisons apparaître sa réponse.
Il y a des témoignages.
Il y a des témoignages importants et sans tous les témoignages ne sont pas dans le papier, il pourrait peut-être y en avoir d'autres qui sortiront un jour.
Emmanuel Macron, c'est aujourd'hui. Alors quand Emmanuel Macron parle, évidemment, il ne parle pas forcément du sujet qu'il commémore. Vous me suivez ?
Ah oui.
Il s'est rendu aujourd'hui à Vassy en Vercors pour rendre hommage au village qui subit en 1944 les premières attaques de la milice française. Des multiples camps de maquisards qui parsemèrent alors la France. La mémoire collective a surtout retenu trois lieux, dont le Vercors. Bon. Alors, quand le président de la République parle, il peut parler effectivement de cet événement, mais forcément, il y a possibilité de parler d'autre chose. C'est en tout cas le sentiment que j'ai eu lorsque je l'ai écouté. Et je soumets à votre acuité intellectuelle ce qu'il a dit, et vous me direz ce que vous en pensez. Écoutons.
Serviteurs du régime de Pétain et Laval, soldats sous le commandement de Joseph Darnan, ces Français trahissaient la France par volonté de vengeance, par pulsion de pénitence. Français prêts à tuer d'autres Français. Et avec eux, cette certaine idée de la France, Français rongés par l'esprit de défaite, inséparable de la haine de la République. Car ce n'était pas seulement un temps où les Français ne s'aimaient pas. C'était aussi un temps où des Français n'aimaient pas la France. Oui, cela n'aimait pas la France des Lumières, celle de 1789 et de l'an 2. Il n'aimait pas Voltaire, Rousseau, Hugo et Zola. Il n'aimait pas De Gaulle et l'esprit de résistance. Non, il n'aimait pas la France. Alors, il ne pouvait aimer la République du Vercors. Souvenons-nous aussi de ces Français, de leurs choix et de leurs fautes.
Souvenons-nous si, aussi de ces Français.
Si on ne lui, si on
moi, je vois un écho. Manifestement, il parle à des gens. Vous
si
êtes d'accord ?
Si on ne lui prête aucun calcul politique et aucune résonance par rapport au temps présent, ce qu'il dit est historiquement exact.
Mais nous sommes d'accord.
Nous sommes parfaitement d'accord.
Mais souvenons-nous. Pourquoi faudrait-il s'en souvenir ? Bon, vous voyez. Non, mais peut-être ai-je l'esprit.
C'est subliminal, en fait.
Oui, non, je l'ai trouvé.
Ah, je ne suis pas.
C'est subtil, on va dire.
Oui, non, mais vous êtes sérieux. Vous êtes sérieux. Non, mais c'est. Non. Écoutez, moi, alors, je vais vous dire ce que je pense. C'est très démonstratif et c'est même un peu. On y va avec nos gros sabots. Mais bon.
Qu'il puisse espérer penser, qu'il y pense et qu'un Pascal Pro va insister lourdement, c'est possible. Mais textuellement, il n'y a rien à dire.
Oui. Mais ce n'est pas ce que je vous dis.
Voilà, c'est tout, il n'y a rien à dire.
Je vous dis qu'il parle.
On ne peut pas lui faire un procès d'intention, on ne peut rien dire.
Mais ce n'est pas un procès d'intention. D'abord, il a le droit. Je vous dis qu'il parle, qu'il lance un message.
Je n'aurais pas aimé qu'il fasse un
message in the bottle. Avec
vous avez été le seul à le recevoir.
Mais Pascal, vous avez...
Non, arrêtez, Philippe, évidemment. Ne faites pas, vous en direz. J'ai l'impression d'être avec des enfants. Arrêtez.
J'ai guetté chaque mot et chaque virgule, il n'y a rien à dire.
Mais c'est pas le problème.
Mais vous avez totalement raison.
Merci Philippe.
Il rend hommage à un passé éclatant et glorieux et en même temps, bien derrière la volonté de pourfendre une certaine catégorie politique d'aujourd'hui et en espérant
en espérant
que la gloire de ce passé qu'il illustre avec beaucoup de pompe rejaillira sur lui. C'est évident ce que dit Pascal. On ne peut pas soutenir que c'est un discours qui enquiste le passé dans son périmètre.
Enfin. Ah, dis donc, un discours qui enquiste le passé dans le périmètre, j'avais pas vu venir. Mais là, ça mérite une.
Et là, je ne comprends pas. Vous venez dire une chose très juste, Pascal, et bizarrement, on vous contredit.
C'est l'histoire.
Non, mais c'est
Philippe Bégère.
D'autres fois, vous avez flatté. Mais là.
Philippe Bégère, c'est l'histoire de ma vie. Voilà, vous venez d'avoir un raccourci.
Vous savez, il y a
de mon existence.
Des crypto-macronistes, attention.
Non, mais écoutez, vous êtes. Enfin, c'est très clair. Et même pour tout vous dire, je trouve que c'est même. C'est presque lourd.
C'est cousu
de fil blanc. Bien sûr. Voilà, me permettez. Et c'est pas la première fois en plus. Et c'est régulièrement
Pavlovien dès l'instant.
Est-ce que je peux terminer une phrase?
C'est pas obligatoire.
Et c'est, c'est généralement dans ce type de discours, et Muriel, qu'on retrouve ça. Et j'ai l'impression même qu'on retrouve une forme de style.
Non, dans cette vous pensez qu'à chaque fois qu'on évoque la résistance,
la pause,
le péténisme, il y a effectivement un
sous-entendu. La réponse est oui. Allez, 20h26.
Non, il y a une certaine manière
de faire
des discours vicieux.
Exactement.
Ce n'est pas votre subtilité.
Mais ça, c'est ce qu'on me dit souvent.
Mais oui.
Il est 20h26, à tout de suite. Parler de la France insoumise, un petit chapitre Arcom, figurez-vous, parce que l'Arcom estime que l'éditorial, par exemple, de notre ami Patrick Cohen sur Crépole, intitulé Crépole, la mécanique de la haine et du mensonge, contenait certains propos déduits de précautions oratoires et énoncés sur un mode déclaratif qui ne satisfont pas aux exigences de mesures de rigueur et d'honnêteté. Courriel envoyé aux personnes qui ont saisi l'institution. Alors, on cite souvent CNews qui est rattrapé par l'Arcom, mais manifestement, ça peut arriver aussi à nos confrères, en l'occurrence de France 5. Et vous-même teniez à. Vous avez mené une bataille contre France Inter.
J'en parle d'ailleurs dans mon journal de guerre, comme vous savez, chaque jour. J'avoue que j'étais un peu agacé que chaque jour que Dieu ou diable faisait, vous aviez le bilan du Hamas à Gaza, le bilan victimaire, à l'unité près, comme s'il s'agissait du journal officiel. Et même un soir de janvier. Le 8 janvier, on vous annonce, sans même sourcer, qu'il s'agit du Hamas. 242 morts. Pas moins, pas plus. Donc j'ai saisi l'ARCOM. Eh bien, l'ARCOM m'a donné raison, selon le principe de l'honnêteté. Et dans le cadre du conflit israélo-arabe, il demande fermement à France Inter d'être prudent. Et ou bien il faut sourcer... Ou bien, même quand vous dites que c'est le Hamas, comme ça n'est pas une organisation forcément très sérieuse, on doit prendre de la distance et indiquer que ça n'est pas sûr. Ça n'est pas ce que fait l'audiovisuel public chaque jour depuis 6 mois. Donc voilà, il faut
dont
le dire,
acte. Parce
que si on ne le dit pas nous, personne ne le dira.
Eh bien, c'est pourquoi nous l'avons dit. On en a parlé hier. Une députée demande l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon à Lille. Aujourd'hui, la situation a-t-elle évolué ? Noémie Hardy.
Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan prennent la pause pour cette conférence sur la Palestine qui suscite de vives contestations. Organisée ce jeudi par une association étudiante à l'Université de Lille, les deux insoumis doivent y intervenir. Mais le logo de l'association a fait naître les critiques. Selon l'historien Georges Bensoussan, il sous-entend la disparition de l'État d'Israël.
Son slogan, c'est « Palestine libre ». Du fleuve à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire, du fleuve à la mer ? C'est l'élimination de l'État d'Israël. C'est un slogan génocidaire.
Plusieurs personnalités politiques réclament l'annulation de la conférence. Le député Rassemblement national du Nord, Sébastien Chenu, dénonce la stratégie électoraliste de la France insoumise.
Un discours qui n'a qu'un but, c'est faire des voix, aller mobiliser des populations qui sont sensibilisées à ce discours antisioniste, des populations qui sont sensibilisées à un islam radical, derrière lesquelles Jean-Luc Mélenchon court.
Et selon la députée Renaissance du Nord, Violette Spielboot, les insoumis ont infiltré l'université publique.
Là, ce qu'on voit, c'est Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, tous les deux en conférence. Finalement, c'est un meeting électoral déguisé au sein de notre université publique, dans des locaux universitaires, et ce n'est pas leur destination. C'est là-dessus que j'ai souhaité alerter le président de l'université en particulier.
Des responsables de la France insoumise jugent ces critiques infondées ou malveillantes et affirment que l'université a bien validé cette conférence.
au-delà de cette conférence, c'est évidemment la personnalité de Jean-Luc Mélenchon et ses intentions qui sont visées. Georges Bensoussan, ce matin, était avec Sonia Mabrouk et il ciblait les intentions, sans doute, de M. Mélenchon.
LFI, c'est le parti qui me fait le plus penser au populisme de Doriot. L'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon et ses sbires.
Mélenchon, Doriot, même combat,
oui,
ça va
même
faire
combat.
Ce que vous dites.
Oui, même combat. Je suis assez historien pour savoir ce qu'a été le PPF à partir de 1938-1939.
Alors, qui est Jacques Doriot, qui était né en 1898? Il est d'abord ouvrier, il adhère au Parti communiste, il est maire de Saint-Denis en 1931, il est exclu du PC en 1934, et il fonde le Parti populaire français, dont parlait Georges Bensoussan, d'inspiration nationale communiste, préconisant une politique de collaboration avec l'Allemagne des 1939. Il dirige le journal Le Cri du Peuple, qui était un journal collaborationniste. Et il s'engage en 1942 dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, combattant sous l'uniforme allemand. Donc c'est une période très particulière, évidemment, de l'histoire, avec une période très particulière aussi du Parti communiste français.
Donc, Doriot, pas de l'ensemble du Parti communiste français.
Mais pas de l'ensemble.
Du Parti communiste français. De Doriot et de quelques...
On va encore s'engueuler, Olivier, non, mais le pacte Molotov-Ribbentrop a existé. Le pacte germano-soviétique a existé.
Le fait qu'il vienne des rangs...
Non, c'est l'autre. Attendez. Soyez gentil. Le fait qu'il vienne... J'ai pas terminé, soyez gentil.
Mais oui, vous allez terminer.
Mais on peut dire que... Moi, on a eu 50 fois ces discussions. Tous les communistes n'étaient pas comme ça. Il se trouve que certains dirigeants du parti communiste, certains dirigeants, vous acceptez ça, certains dirigeants. Donc c'est une période particulière du parti communiste. Je veux pas polémiquer,
non,
hein, vraiment.
Ce que je veux simplement vous dire, c'est que le fait que vous soyez parti de Doriot pour après amener une généralisation sur l'ensemble du parti.
Non, généralise pas.
Votre formulation était maladroite.
Non, mais au contraire, j'ai pris vraiment des gants parce que en revanche, l'analyse de Bensoussan, est-ce qu'elle est juste?
Oui, bien sûr qu'elle est juste. Elle est juste, toute proportion gardée. Il y a la même soumission de M. Mélenchon à l'égard aujourd'hui de l'islamisme radical antisémite que Doriot à l'égard de l'antisémitisme nazi. Et il y a le même talent au niveau des tribuns. Doriot, c'était une grande gueule avec beaucoup de facondes.
Philippe Bilger.
Trouve que la comparaison est tout de même... J'ai beaucoup de respect pour Georges Bensoussan, mais les comparaisons historiques extrêmement dangereuses.
Évidemment.
Et je voulais vous demander, là c'est votre avis, je trouve détestable l'attitude de Mélenchon, la manifestation qu'il veut tenir, est-ce que vous trouvez normal qu'on l'interdise?
Je peux répondre?
Oui. Enfin...
C'est-à-dire que les autres peuvent parler aussi.
Le fait qu'on dise que l'islamisme soit un nouveau fascisme, c'est exact. Le fait qu'on dise que Mélenchon est le nouveau Doriot, c'est ridicule. Tout simplement, ça vise à une disqualification qui fait que le débat pourrait s'arrêter. Et donc, je pense que la convocation d'une telle histoire à un tel moment n'est même pas utile pour le débat.
D'accord. Gilles William.
Pour répondre à la question pertinente de M. Bilger, de manière générale, je suis contre toute interdiction et je suis pour ne pas contrôler la parole, même lorsqu'elle est très désagréable. Ce qui me gêne dans ce pays, c'est qu'on va interdire des réunions d'ultra-droite qui n'ont pas le quart de la moitié de l'antisémitisme de ce que j'entends maintenant à l'extrême-gauche. C'est ce que j'appelle le privilège rouge. Voilà.
Je suis d'accord avec vous, mais vous-même, en reprenant le terme d'ultra-droite, vous semblez reprendre le vocabulaire de ceux que vous attaquez.
Non, l'ultra-droite, ça existe, vous avez vu une ultra-droite, les gens qui se sont réunis au moment de Thomas dans la
rue. Je pensais que vous faisiez allusion à ce qui se passait à Bruxelles.
Pas du tout, je parle de l'ultra-droite.
D'accord. Johan Usaï.
Non mais d'abord, je crois que contrairement à ce que vient de dire Sébastien Chenu, il faut arrêter de parler d'antisionisme. L'antisionisme aujourd'hui, c'est de l'antisémitisme déguisé, c'est l'antisémitisme mondain. Donc aujourd'hui, si de la part de la France insoumise, l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme déguisé. Donc disons les choses franchement. En plus, cette conférence, elle se tient quand même avec Rima Hassan, ça n'est pas n'importe qui. Elle a la haine des juifs chevillée au corps depuis sa naissance. Elle est dans la haine du juif, donc cette conférence, ça n'est rien d'autre qu'une incitation à la haine. Et la question qu'il faut se poser, me semble-t-il, au-delà de l'interdiction, est-ce qu'une conférence, par exemple, en soutien à Israël, aurait pu avoir lieu dans cette même université? La réponse est évidemment non, ce qui montre bien qu'il y a un problème dans ce pays, et en particulier dans nos facs.
Écoutons Manuel Valls. Écoutons Manuel Valls, toujours sur ce thème de Jean-Luc Mélenchon.
Il veut mettre le feu au pays et créer les conditions du chaos.
Jean-Luc Mélenchon.
Oui, la France insoumise, là, dans les universités, demain, dans les quartiers, à travers, en instrumentalisant la question de la Palestine, après avoir pendant des mois tenu un discours antisémite. Moi, le mot antisémitisme ne veut plus rien dire, en diffusant la haine des Juifs et la haine d'Israël, ou la haine des Juifs à travers la haine d'Israël. Donc, moi, je pense que ici ou là, il peut y avoir des interdictions, mais le vrai travail, il est politique. Il est de récupérer l'espace public, les amphithéâtres dans les universités. Quand il faut interdire, il faut interdire. Mais l'essentiel, c'est de combattre ce discours de haine.
Je trouve que Manuel Valls, c'est l'honneur de la gauche républicaine. Et j'aimerais que François Hollande, par exemple, ait les mêmes mots.
Il l'a payé cher. Il l'a payé politiquement très cher.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est vraiment l'honneur de la gauche républicaine.
Absolument, mais il l'a payé très cher, malheureusement.
Il l'a payé cher, et en plus, on a été très injuste avec lui parce qu'on a interprété l'envie qu'il avait de se présenter à Barcelone, puis son retour en France, comme étant une espèce d'exil d'hommes bien nés en politique.
Prenez ses déclarations à l'époque.
Or, je trouve que année après année, il comprend de mieux en mieux ce que sont les enjeux importants.
Bon. Dis donc, il redevient celui qu'on aimait.
Autre échange qui m'intéressait, c'est Shannon Seban. Shannon Seban, c'est la présidente de Renaissance en Seine-Saint-Denis. Et elle a écrit, je viens d'apprendre que Rima Hassan annule sa participation à notre débat prévu ce mercredi sur le Média TV, qui est le média de Jean-Luc Mélenchon à l'approche des élections européennes. Je le regrette, LFI refuse de débattre et de faire face à ses propres contradictions. Madame Rima Hassan lui a répondu « Mais vous êtes qui ? Vous n'êtes ni candidate ni même experte du sujet. J'avais accepté lorsque Madame Ridel était prévue sur le plateau, ça permettait au moins de ne pas me retrouver à échanger avec quelqu'un qui brasse du vent et à qui il faut tout apprendre. Vous n'avez aucune maîtrise du sujet, ajoute-t-elle plus loin, et vous soutenez surtout un génocide. Maintenant, vous êtes gentille, allez chercher de la lumière et de la visibilité par d'autres canaux. » Madame Seban a répondu « Et vous, vous êtes qui ? Quel mépris de votre part ? La différence entre vous et moi, c'est que je me suis engagée en politique aux côtés d'Emmanuel Macron. Vous pourrez lire vous-même cet échange de tweets. Candidate et expert, vous êtes surtout obnubilé par votre personne et je persiste et signe, vous soutenez un génocide. Et oui, j'ai beaucoup de mépris pour la bêtise. Voilà l'échange entre Madame Shannon Seban et Rima Hassan et chacun.
C'est pense. Du mépris de classe.
Oui. Oui, c'est Madame. Les gens sont ce qu'ils font.
Bon, enfin, moi, la pertinence et l'intelligence de Rima Hassan ne m'a jamais sauté aux yeux et aux oreilles, mais je peux me tromper. Hein.
On attendait la riposte aujourd'hui, elle n'est pas encore venue, la riposte d'Israël. Il n'y a pas grand chose à dire ce soir de nouveau, me semble-t-il, sur ce thème.
Et vous savez, c'est une alternative diabolique, hein, parce que s'il n'y a pas de riposte, et notamment sur les centrales nucléaires, on sera dans un risque terrible dans quelques semaines, dans quelques mois, et s'il y a une riposte, eh bien, il y a aussi le Hezbollah qui s'y mettra de la partie. Et si les Américains ne protègent pas, ça sera des milliers de morts en Israël. Donc, une alternative très compliquée.
Je voudrais un tout peu modérer ce que vient de dire William Goldadel. Je suis d'accord sur le fond. C'est que quand même, ce qui s'est passé ce week-end montre que c'est un échec pour l'Iran. Un échec.
Mais on l'a dit hier.
Un échec technique, un échec militaire.
On l'a dit hier.
C'est donc, ça paraît plus affaibli aujourd'hui que la semaine dernière.
Oui. Bon, on l'a dit hier. On l'a dit hier, sauf si vous avez quelque chose à dire qu'on n'a pas dit hier.
Évidemment, je suis naïf, mais...
Non, c'est pas ce qui vous caractérise.
Il serait d'une grande intelligence politique, mais probablement c'est inconcevable, utopique, c'est qu'Israël comprenne que de ne pas riposter, en quelque sorte, de la manière qu'on a non. Je veux dire, est-ce que ce serait convenable dans un monde aujourd'hui ?
La branche de l'alternative qui est diabolique, du coup, dans quelques mois... L'Iran sera atomique.
Si vous avez allumé la télévision aujourd'hui, si vous avez allumé la radio, si vous avez lu la presse, vous avez entendu parler du salaire de Carlos Tavares. 36 millions d'euros, c'est le président de Stellantis. Stellantis était une entreprise à la dérive. Il en a fait un produit d'exception. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 14 marques, succès total. vraiment très important, des milliards, je crois, de réussite. Et ce qui est intéressant, et ce matin on réfléchissait là-dessus, c'est que personne n'est choqué en France du salaire de Mbappé, et un salaire de grand patron est toujours mis en accusation. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, parce que finalement, dans le domaine du sport, on accepte son niveau. Personne ne dit « je peux être Mbappé », personne ne dit « je peux être Hamilton », personne ne dit « je peux être Djokovic ». Mais au fond, dans les autres domaines, c'est peut-être plus subjectif. Et on n'admet pas l'idée que Tavares est à l'entreprise, que Mbappé est au foot, finalement.
Comme l'avait dit Geoffroy de Bézieux.
Non, mais c'est intéressant parce que c'est...
Il y a autre chose, je crois.
Alors, évidemment, si on est dans un domaine capitaliste et d'offres et de demandes, il faut être cohérent. C'est-à-dire que si Mbappé... on n'est pas choqué qu'Mbappé gagne 70 millions d'euros, on n'est pas choqué non plus qu'un... Bon, voilà, on n'est pas choqué. En revanche, comme toujours, on peut être dans un autre système, on peut tout trouver, que c'est...
Juste une chose, parce que moi, j'étais... intéressé par votre angle ce matin, parce que je n'avais pas vu les choses comme ça. J'attire simplement votre attention sur le fait que, y compris au sein même du monde capitaliste, comme vous dites, ce niveau de rémunération interroge, avec y compris des sociétés conseils d'actionnaires qui disent « là, on va trop loin ». Et d'autres patrons du capitalisme international ou français ou européen ont dit « là, il faut quand même qu'on freine un peu ». Vous savez que dans cette rémunération, j'ai regardé la constitution de ces 36 millions d'euros.
Il y a 90% sur les résultats.
Oui, et certains spécialistes de ces rémunérations disent il y a par exemple des primes très importantes qui dépassent 10 millions pour des choses qui relèvent de l'activité normale d'un patron, comme par exemple préparer la filière au défi électrique.
Mais c'était pas ça, moi, qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que sur Mbappé, personne ne dit rien.
Le fait que ça puisse être questionné est une bonne chose.
Mais je reprends votre argument.
100 000 euros par jour.
Quand j'étais jeune, j'avais noué une solide amitié avec Jean Dutour. Jean Dutour me disait, si je m'applique, je pense que je pourrais arriver à être Stendhal. Si je m'applique, je pense que je pourrais arriver à être Balzac. Mais même en m'appliquant toute ma vie, je ne pourrais pas être Victor Hugo. Mais ça m'était resté, ça. Et je me dis, moi, j'admire les gens que je ne pourrais pas être. Je ne pourrais jamais être Mbappé. Mais je ne pourrais jamais être Carlos Tavares. Donc que ces gens-là soient dans un univers de rémunération, dans un univers de respectabilité, à des années-lumière du mien, ne me dérange absolument pas.
Faites attention, parce qu'entre le très haut et la smicardisation du salariat français, faites attention.
Moi, je rejoins Jérôme. Les Français, d'abord, la comparaison avec Mbappé, je voudrais répondre un peu à votre objection, Pascal. La grande différence, c'est que Carlos Tavares, que j'admire et dont je considère qu'il mérite ce qu'il va recevoir en 2023, pour 2023, la grande différence, il a tout de même, à cause de sa réussite même, accompli des choses qui ont porté préjudice à des gens. Il a dû en licencier. Il a été obligé d'avoir une politique relativement dure par moment. Mbappé, il n'a fait de mal à personne.
Si, il a battu d'autres équipes.
Oui.
Le chiffre d'affaires de Stellantis, toujours intéressant, c'est 190 milliards d'euros. Les bénéfices, c'est 19 milliards d'euros. Et c'est 400 000 personnes. Hein,
Il a sauvé des milliers de personnes d'un dépôt de bilan.
Il y a tout, évidemment, qu'on a un rapport à l'argent qu'on est en France. Je ne sais pas. Tous les journaux ont parlé de ça aujourd'hui. Toute la presse a parlé de ça. Je ne sais pas si aux États-Unis,
La question monte aux États-Unis.
J'en suis pas certain.
Je pense que vous avez raison.
On a un rapport avec l'argent, peut-être, en France, que les autres n'ont pas.
Avec l'argent des affaires, l'argent de l'industrie, l'argent du commerce. Je vous signale que les acteurs bénéficient également de la même indulgence.
Oui, mais ça n'a rien à voir.
Je ne dis pas le contraire.
Les comédiens aujourd'hui, vous vous trompez sur l'argent des comédiens.
Oui, oui.
Vous vous trompez. Je vous dis, vous vous trompez fortement.
Je pense
que les comédiens, ils sont moins riches qu'un avocat comme vous.
Je n'ai jamais entendu critiquer les gros cachets des grands acteurs.
Mais il n'y en a plus de gros cachets. Il y a des grands acteurs, mais il n'y a plus de gros cachets.
C'est possible.
Il peut peut-être.
Est-ce que vous avez entendu une fois une critique là-dessus?
Il peut avoir. Il y a, je pense qu'il
n'existe pas.
Si, il doit avoir Omar Sy, peut-être Danny Mo. Il doit avoir 5 gros cachets, mais qui n'ont rien à voir avec les cachets des sportifs de haut niveau.
Bien sûr.
Est-ce qu'on peut clore le débat en disant qu'à l'Assemblée générale des actionnaires, cette valorisation de salaire a été votée à 70%.
Et comme c'est Amsterdam,
fin d'histoire.
C'est purement consultatif.
Fin, bon, à 70% des
dans,
votants.
Alors, dans les infos du jour,
Vous êtes démocrate ou pas?
Dans les infos du jour, elles sont plus légères. Les tenues des Jeux Olympiques sont sorties et elles ont été apportées par c'est Berluti, mais Berluti, c'est Bernard Arnault. Et on les découvre là. Et moi, je trouve qu'elles sont extrêmement réussies. Voilà comment vous verrez les sportifs des Jeux Olympiques défiler lors de la cérémonie d'ouverture, on ne sait pas où elle sera, avec, en smoking, avec un col châle qui est bleu, blanc, rouge. Ça, c'est la tenue masculine à droite, c'est la tenue féminine à gauche. Je trouve ça chic, je trouve ça classe, je trouve ça élégant. Et il faut dire bravo.
Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça ressemble au costume que vous avez moqué, que je portais hier. Le bleu.
Non,
très bien.
Non, c'est pas vrai.
Ça n'est pas vrai.
Celui-là, vous l'aviez acheté chez Tout pour le Monstre.
Excusez-moi. J'essaie d'être cohérent.
Là, je vous parle d'une des maisons les plus prestigieuses de France. Je veux dire, non.
Je me revois là.
Non. Je me parais un fast-food avec un restaurant 3 étoiles.
Non, là, vous n'êtes pas sérieux. Là, franchement, vous n'êtes pas sérieux. Bon, est-ce qu'on a d'autres images? Je le demande à Benjamin Nau. C'est la seule photo qu'on ait. Alors, c'était la flamme. Oui.
Vous en trouverez d'autres dans Paris Match jeudi. Des photos de
la flamme.
Des costumes.
Ah. Et c'était. Il n'y avait pas une polémique, Pascal, sur les femmes en disant qu'elles avaient un costume trop échancré, jamais lu.
Ah bah, non, mais là, pardonnez-moi, il ne peut pas avoir de polémique puisque ces photos ont 2 heures. C'est le journal L'Équipe qui les a révélées. Vous confondez, je pense, avec les tenues américaines pour le sport. Il y a une polémique, mais là, personne n'avait vu ces photos.
Habillent les athlètes français.
Voilà. Voilà.
Il n'y avait jamais eu quelque chose.
Non.
Alors, en tout cas, ça a été révélé tout à l'heure.
Elles sont magnifiques.
Mais vous n'écoutez pas. D'abord, vous n'écoutez pas et vous n'avez pas confiance en moi.
Mais j'écoute et j'écoute.
Et vous n'avez pas confiance en moi.
Sur un certain plan.
Mais pas là-dessus.
Mais j'avais tout de même lu il y a deux, trois jours.
Oui, ben vous avez.
Les femmes dans les costumes étaient.
Absolument.
Voilà. Bon, bien juste les
moi, j'ai pas.
Mais je, bon, mais vous n'avez pas pu le lire puisque les photos n'étaient pas sorties. Bon,
mais c'est celle-là, Pascal.
On dirait un sketch, tu sais, de Poiret, Serrault. On dirait le fameux sketch de fumée avec un hautbois. Vous savez, bon, bref.
Non, je nie pas.
Non, mais bien sûr. Bon, c'est pas le sujet puisqu'on peut. C'est interdit de fumer au bois, mais on peut pas. Bon, là, c'est pareil. La flamme olympique. Elle est partie ce matin. Alors,
qu'est-ce que c'est kitsch comme cérémonie? Vous n'avez pas trouvé ça un peu ridicule?
Mais vous êtes beau.
Voilà. Vous êtes blasé.
Vous avez perdu toute possibilité d'émerveillement. Vous ratiocinez en permanence. Vous ne pouvez pas essayer d'être positif.
Défendez-moi.
Mais pourquoi vous dites que c'est kitsch? Vous pourriez.
Je n'ai pas trouvé ça très beau. Vous avez trouvé ça un peu vieillot.
Eh ben vous n'êtes pas vieillot. Avec franchement,
vous connaissez un peu.
Alors, regardez. Moi, voilà, c'est une cérémonie. Est-ce qu'on peut voir le sujet de Noémie Hardy? Et voilà, au contraire, je trouve ça plutôt dépouillé. Voilà, franchement, c'est pas kitsch, c'est au contraire assez simple. Et je vous propose de voir le sujet de Noémie Hardy. On verra Flore
Manoudou.
Exactement, Laure Manoudou.
Laure, par ici en regardant, ouais, super, merci.
La nageuse Laure Manoudou est la première française à porter la flamme olympique. Il y a 20 ans, elle gagnait la première médaille française en or à Athènes.
Cher Laure, on est très heureux de lancer les Jeux de Paris 2024 avec toi et avec cette flamme qu'on attend depuis si longtemps. Permets-moi ce petit clin d'œil à un monument de la chanson française. Il y a des millions de Français qui attendent ces Jeux et on compte sur toi pour allumer le feu.
La flamme olympique a été allumée devant les ruines vieilles de 2600 ans du temple d'Héra par la grande prêtresse, comme le veut la tradition antique. La cérémonie s'est poursuivie par des danses. Lorman Odou marque le top départ vers les Jeux de Paris. 11 000 porteurs se relaieront pour ce long périple. La torche arrivera à Marseille le 8 mai. En tout, la flamme olympique traversera 400 villes, une soixantaine de territoires, dont 5 ultramarins. La flamme olympique est attendue à Paris pour la cérémonie d'ouverture le 26 juillet.
Vive la Grèce et vive la France!
Ça m'a rappelé mon agrégation de grec ancien que j'avais passé, bien évidemment. Non, mais je vais vous dire, on peut critiquer bien sûr les Jeux, mais plus on va se rapprocher, plus quand même il y a un peu d'enthousiasme. T'as envie de voir les épreuves, t'as envie de voir comment ça va se passer. On était avec Vincent Hervouet, je crois, hier matin, qui disait « je ne veux même pas regarder la cérémonie d'ouverture ». Non.
Vincent, il est parfois un peu paradoxal.
Non, mais il est un peu paradoxal. Mais comme vous, vous voyez ça.
J'adore les Jeux. Je trouvais cette cérémonie là un peu sans intérêt. Mais j'adore les Jeux.
Elle est symbolique.
J'ai hâte qu'on arrive au mois de juillet.
Ah oui, ça fait ça, oui.
Pour quitter Paris.
Mais pas du tout.
Bon, en tout cas.
Cette moquerie permanente.
Mais non, mais bon, en tout cas, je trouve que. Bon. Permanent. Et donc, elle arrivera le 8 mai. Je crois qu'il y a Jean-Michel Larquet qui la portera.
Ah bon?
Oui, à Saint-Étienne. Je crois qu'Éric Pécou va la porter aussi, parmi les footballeurs, me semble-t-il.
Je rêverais de la porter aussi.
Mais tu la portes très peu de temps. Hein. Oui, oui. Il faut trouver beaucoup de porteurs. Tu la portes combien?
Entre 150 mètres. Et 200 mètres.
Je m'inscris.
Comment?
Je m'inscris pour la porter. Là, non, mais,
200 mètres, c'est beaucoup.
Pour, oui, pour vous, 200 mètres, je sais pas. Vous allez, il faut faire venir l'ambulance quoi, au bout de 200 mètres. Il faut prodiguer un massage cardiaque au bout des 200 mètres. Oui. En revanche, Giroud à Auxerre, par exemple, Marine Lançon qui m'écoute, Giroud va la porter. Vous voyez, c'est des instants symboliques. En fait, c'est toutes les personnalités françaises sportives qui ont qui ont gagné quelque chose depuis 50 ans, je pense, vont à un moment du 8 mai, il y a deux mois de portage, si j'ose dire. Donc, Giroud va la porter à Auxerre. Voilà, ça va être symbolique, c'est agréable, c'est sympathique, c'est un hommage. Et essayez d'éveiller un peu votre cœur.
La question est de savoir si l'ambiance des mauvais coucheurs et des peu enthousiasmés tels que Jérôme Béglé va...
Mais j'adore les Jeux Olympiques, j'ai trouvé cette cérémonie. Vous n'allez pas m'en faire un opéra en quatre actes. Pas aimé cette cérémonie, mais j'adore que les Jeux Olympiques soient à Paris.
Vous me faites penser à Laurent Gérard lorsqu'il imite Pierre Arditi et qu'il dit « cet homme a mal ». Vous savez, cet homme a mal, et ça. Et ce matin, il était avec nous, Laurent Gérard. Et parmi les imitations nouvelles qu'il produit et qui est absolument formidable, il y a l'imitation de Pierre Arditi qui est jubilatoire. Eh bien, écoutez Pierre Arditi par Laurent Gérard et ça me fait un peu penser à vous. Arditi, je l'ai vu sur votre plateau, il est mort de rire. Lorsque vous l'imitez, d'abord parce que c'est gentil et bienveillant, et puis
oui.
Alors qu'est-ce, par exemple, là, il dit, c'est pas possible, cet homme souffre.
Oui, cet homme a mal. On n'en peut plus. Non, mais là, sortez-moi de là. Donc, on cherchait un râleur, et effectivement, Pierre Arditi a souvent cet esprit râleur un peu. Non, mais enfin, arrêtez, c'est impossible. Non, mais là, cet homme a mal. Pascal Brault souffre. Non, mais là, sortez-le de là. Et vous, c'est pareil, par exemple. Je vous avais capté sur une radio concurrente et néanmoins amie, comme on dit, mais, mais c'est vrai que c'est souvent par la radio. Oui. Votre collègue Philippe de Villiers, je me souviens, c'était sur une phrase, c'était « soulever le traité de Maastricht et votre voix est François Mitterrand ». C'était parti, ça. Et c'était sur Maastricht, ce qu'il disait Maastricht. Et après, je dis, ah oui, c'est vrai qu'il parle comme ça. Bon, mais c'est la prosodie aussi, c'est ce qu'on appelle la musicalité de la voix qui est importante.
On a vécu un moment formidable parce qu'il va remonter sur scène au Casino de Paris à la fin de l'année. C'est vraiment extraordinaire. Et il nous a également imité Jean d'Ormesson. Alors, Jean d'Ormesson, j'adore Jean d'Ormesson.
Je voulais être heureux, je l'ai été, bravo. Il y a dans ce bravo toute la tristesse du monde.
Le texte, tout.
Mais personne n'a jamais fait Jean d'Ormesson.
J'ai très bien connu Chateaubriand.
C'est génial.
Mais le « j'ai très bien », vous voyez dans le « j'ai très bien connu »
Au Figaro. Alors avant, c'était au Figaro.
Oui, vous voyez,
rencontré Jean.
Oui, mais dans le « j'ai très bien connu », c'est une phrase
elle dit tout de Jean d'Ormesson.
Oui.
Vous voyez, c'est ça là, le génie, c'est la voix, mais de choper quelque chose. J'ai très bien connu Chateaubriand. C'est ça qui fait rire, parce que c'est lui. Vous voyez, t'as l'impression qu'il a connu tout. Et c'est ça qui fait.
Il y a une anecdote avec Jean d'Ormesson, d'ailleurs. Et il m'avait dit un jour, je t'ai écouté à la radio, je me suis dit, ce Gérard exagère. Eh bien, je me suis rendu compte que c'était moi qui parlais. C'est le plus beau compliment.
Oui.
Je l'aimais beaucoup, Jean. Oui.
L'esprit français. Voilà, l'esprit français.
Un exceptionnel imitateur.
Exceptionnel, vraiment exceptionnel. Il y a 4 ans, jour pour jour, Christophe nous quittait. Donc, on aura une pensée pour lui et pour ses chansons.
Il composait la nuit.
Oui, qui alors ceux qui sortaient dans Paris le croisaient parfois vers 2h, 3h du matin, sortant d'un van avec plein d'amis. Et il dînait à ce moment-là, tard dans la nuit. Et il habitait... moi je ne l'ai jamais vu solitaire, mais et en tout cas, il habitait dans le 14e, il habitait boulevard de Montparnasse, et il est mort effectivement du Covid il y a 4 ans. On a commencé l'émission avec une... un souvenir, celui de Gilles Taïeb, à qui on a rendu hommage. Olivier Benkemoun va nous rejoindre dans une seconde et peut-être reparlera-t-il de notre ami Gilles Taïeb, qui était vice-président du CRIF. En tout cas, Olivier, vous allez pouvoir aborder les sujets d'actu dans une seconde.
Oui, mais c'est vrai qu'on reparlera de Gilles Taïeb parce qu'il y a Jonathan Arfi qui est là. Ce soir, c'est le président du CRIF. Évidemment, il y a beaucoup de sujets. Alors, il y en a un ce soir, il y a une nouveauté. À Sciences Po, encore une fois, vous allez dire, à Sciences Po, on demande aux étudiants, c'est une association très pro-palestinienne, dit dénoncer si vous avez des profs, si vous avez des gens de l'administration, d'autres étudiants qui ne sont pas pro-palestiniens. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce soir, on est dans... C'est encore un truc, encore un échelon nouveau dans le...
Je salue la Corse qui nous regarde et notamment Pascal Olmeta qui portera précisément la flamme olympique à Bastia.
Très bien.
Et il la passera à son fils, d'ailleurs, il passera le flambeau à son fils. Il nous dit bravo pour notre émission. Je le salue, évidemment, Pascal Olmeta. Thibaut Palfroy, vous serez peut-être d'ailleurs en Corse cet été, cher ami.
Oui.
Votre
migrant train. On va s'y croiser, cher Pascal Pro.
Je l'attendais. À la langousterie.
Et on va pouvoir mettre les photos
de
On va mettre les photos de votre résidence.
Pourquoi les langousteries ne montrent rien ?
Votre passage est annoncé déjà sur l'île de beauté.
Et moi, je m'occupe de vous aussi.
Thibaut Palfroy était à la réalisation. David Tonnelier était à la vision. Anatole de Beaumont était au son. Merci à Benjamin Noah, à Lucas Busutil, à Guilhem Lafage. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews. .fr. Allez Paris ce soir. Benjamino, et à mon avis, il a déjà quitté Benjamino la régie. Il est en train de faire un sprint pour aller dans le bureau, pour aller voir le PSG. Passez une bonne soirée. Et moi, je vous le dis, le PSG va se qualifier. J'en prends l'engagement. Le PSG va se qualifier.
Allez, ouais.
Oh, bah alors là. À demain.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners, so there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.